pas de bonnes nouvelles. Alors, bon matin à vous tous. Ce matin, on va goûter à l'eau vive. C'est toute une différence. Celle-là ne rend pas malade. Alors, je vous invite à prendre vos Bibles, s'il vous plaît. Et en passant, remercie à Pierre et toute son équipe pour ces beaux chants d'encouragement de circonstances. Toujours bien de chanter, de nous rappeler les bontés de l'Éternel. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me vient le secours. Seigneur est un refuge, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Pourquoi nous sommes sans crainte? Alors, je vous demande de prendre vos Bibles ce matin et trouver le psaume 133. Et nous allons continuer ce matin notre étude de ce thème qui nous préoccupe ce matin, que nous avons vu la semaine dernière, ce beau thème de l'amour fraternel. Et en trouvant la place, on nous raconte l'histoire suivante. Et cela vient d'une page tirée de le journal intime de John Wesley, ce grand prédicateur britannique que le Seigneur a utilisé justement pour faire un réveil en Angleterre. Et John Wesley a écrit ceci: dimanche le 5 mai à M, j'ai prêché à l'église de Sainte-Anne. À la fin, on m'a demandé de ne plus y retourner. Le 5 mai PM, j'ai prêché à l'église de Saint-Jean. Les autorités m'ont mis dehors. Dimanche le 12, la semaine suivante, mai AM, j'ai prêché à l'église de Saint-Jude. Encore une fois, je ne peux pas y retourner. Dimanche le 12 mai PM, j'ai prêché dans une autre église. On a convoqué une réunion d'urgence pour régler mon cas. Dimanche le 19 mai AM, j'ai prêché dans la rue. On m'a botté hors de la rue. Dimanche le 26 mai AM, j'ai prêché dans un champ. J'ai été chassé du champ par un taureau que les gens ont relâché. Dimanche, le 2 juin, à M, j'ai prêché à la banlieue de la ville. On m'a botté hors de la banlieue de la ville. Dimanche, 2 juin, PM, j'ai prêché dans un pré. 10 000 personnes sont venues m'écouter. Quel bel exemple de persévérance, n'est-ce pas? Cet homme aurait pu dire, mais écoute, qu'est-ce que ça donne? Mais il a persévéré. Et vous savez, cette foule qui est venue l'écouter, je suis convaincu qu'il y a des âmes qui ont été sauvées. Alors, ça c'est notre défi, comme nous avons dit la semaine dernière, Hébreux 13, 1, ce beau texte qui nous dit « Persévérez dans l'amour fraternel ». Et pourquoi est-ce que je reviens encore là-dessus? Parce que c'est ce que le texte dit, « Persévérez dans l'amour fraternel ». Et jusqu'à ce que le Seigneur revienne nous chercher, ce serait toujours la même exhortation, persévérer dans l'amour fraternel. Qu'importe les circonstances, qu'importe la situation dans laquelle on se trouve, l'exhortation c'est de persévérer dans l'amour fraternel. Et nous avons vu la semaine dernière quatre aspects de l'amour fraternel qui démontrent son importance. Rapidement, nous avons vu l'exhortation à l'amour fraternel. On a vu que nous étions des frères et des sœurs de la même famille. Et par ce fait même, il existait un amour entre les frères et les sœurs, une affection les uns pour les autres. Et nous étions exhortés justement à cultiver cela. Nous avons vu aussi l'étendue. Cela ne se limite pas seulement à quelques-uns d'un clique spécial, mais l'amour fraternel devrait s'étendre à tous, même envers le plus haïssable. Troisièmement, nous avons vu l'évidence de l'amour fraternel. Ce n'est pas assez de dire « Je t'aime mon frère » ou « Je t'aime ma sœur » et dans mon cœur avoir des mauvais sentiments ou même faire du bien à quelqu'un tout en même temps lui haïssant la face. Mais il fallait avoir dans nos cœurs aussi des sentiments. Des sentiments, une affection vive, justement, si on ne voudrait pas être hypocrite. Et ce matin, nous aimerions voir alors un quatrième aspect, c'est l'éloge de l'amour fraternel. Et pour cela, on va considérer le psaume 133. Alors, on va lire maintenant le psaume où l'auteur, c'est David, Cantique des degrés de David. Voici, ô qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe, d'Aaron qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Et ce matin, j'aimerais considérer avec vous trois aspects alors de l'unité qui découlent de l'amour fraternel, parce que le thème central de ce psaume, c'est l'unité. Et j'aimerais regarder alors cet aspect de l'unité qui découle justement de l'amour fraternel. Juste pour mettre dans le contexte, le psaume, c'est un psaume de degré ou d'ascension. Les commentateurs nous disent que ces psaumes, 120 jusqu'à 134, étaient chantés par les pèlerins lorsqu'ils se rendaient à la ville de Jérusalem lors des trois fêtes annuelles, des trois grandes fêtes que l'Éternel avait prescrites justement dans la loi de Moïse. Et quand ils se rendaient à Jérusalem, les exilés, les pèlerins de partout, qui étaient éparpillés un peu partout, se rassemblaient et comme un seul homme, ils s'en allaient à Jérusalem pour adorer justement l'Éternel. Et ce psaume alors nous parle de cet amour fraternel qui existait entre justement cette communauté. Mais il y a aussi une bonne application pour nous. Alors premièrement, en regardant l'amour fraternel, cela favorise l'unité et cette unité est démontrée par une proximité. L'amour fraternel favorise une unité et cette unité est démontrée par une proximité. Le texte dit, si vous regardez encore votre texte, voici ô qu'il est agréable, il est doux pour des frères. Et j'aimerais mettre l'emphase maintenant sur ces deux mots, de demeurer ensemble. Retenez cela, parce que le texte dit « voici ô ». En anglais, c'est « behold », c'est « regarder », c'est « contempler », c'est « méditer », c'est « savourer ». Combien cette belle unité qui découle de l'amour fraternel, combien elle est importante. Ne l'oubliez pas, parce que cela favorise justement une proximité des frères de demeurer ensemble. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Dans un premier temps, ce mot et cette expression « demeurer ensemble ». Dans le texte original, il y a deux mots principaux pour le mot « demeurer ». Nous avons le mot en hébreu « chaken » qui veut dire simplement « demeurer », « rester », »,« habiter ». Par exemple, le juif ou les nomades qui demeurent sous des tentes, ou quelqu'un qui demeure à une adresse postale quelconque. Ça, c'est sa domicile. Mais le mot qu'on utilise ici, c'est un autre mot hébreu, yashab, qui veut dire de s'asseoir, de rester immobile, de rester tranquille, comme vous êtes ce matin. De ne pas être agité, de ne pas courir à droite et à gauche, mais de rester, demeurer tranquille avec d'autres. Et le texte dit ensemble. Et là, je vous pose une question. Et si moi, je demeure et je reste ensemble, tranquille, et vous, vous restez, vous demeurez tranquille. Mais quelle est une implication que nous pouvons retirer d'une telle situation? Il peut y avoir plusieurs réponses. Pourquoi est-ce que tout le monde est en train de faire la même chose? Mais j'aimerais ce matin vous suggérer que ces personnes qui demeurent ensemble, selon le contexte, c'est parce qu'ils pensent ensemble. Ils pensent de la même manière. Et ça, c'est une réalité de la vie. Quand les gens pensent de la même manière, un résultat de cela, c'est qu'ils vont agir de la même manière. Et ça, c'est ce que le mot « demeurer ensemble » nous véhicule ce matin. La notion de l'unité. Les gens qui sont en train de faire la même chose parce qu'ils pensent tous de la même manière. Et je vous donne deux textes pour souligner cela. Dans Philippiens 2:2, Paul va exhorter les croyants comme suit. « Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. » Et dans 1 Pierre 3:8, où Pierre dit à ses lecteurs, « Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins de quoi? Pleins d'amour fraternel. » Alors, une application, une évidence directe, c'est quand les gens sont remplis d'amour fraternel, une chose qui découle, c'est qu'ils ont la même pensée, ils ont les mêmes sentiments, et cela découle justement sur un état où est-ce qu'ils sont ensemble. Ils sont en train de penser de la même manière, et ça reflète justement une belle unité. Et j'ai ouvert une parenthèse ici. Parce que des gens pourraient dire, écoute, vous dites qu'il faut être ensemble, il faut penser de la même manière et ainsi de suite. Mais ça ressemble pas mal à un secte. Hein? Des gens qui ont tous suivi un lavement de cerveau ne pensent pas pour eux-mêmes. Il y a un gourou quelconque qui leur a dit comment penser. Vous n'êtes pas non plus meilleur que les autres. Mais j'aimerais vous suggérer ce matin, si ce n'est pas le cas. Si les chrétiens sont ensemble, qui s'ils ont les mêmes sentiments, s'ils sont une même âme, s'ils ont la même pensée, s'il y a une belle unité qui dégage justement cette collectivité, c'est parce que Dieu a fait d'eux une seule peuple. Dieu a fait de ces personnes une même famille. Ils ont le même sauveur. Ils ont la même espérance. Ils parlent le même langage parce que le langage vient de la même parole, la parole de Dieu qui est vivante et qui est permanente que nous avons dans 1 Pierre 1:23. Et parce que cette parole est vivante et permanente, qu'est-ce qu'elle fait? Elle transforme les croyants pour qu'ils ressemblent de plus en plus à Jésus-Christ. Et montrez-moi deux croyants qui ressemblent à Jésus-Christ, et je vous montrerai deux croyants qui pensent et agissent de la même manière. Pourquoi? Parce qu'ils vont agir comme Jésus-Christ. Et surtout au niveau de l'amour. Et qu'est-ce que Jésus-Christ a dit dans Jean 13, 34? « Aimez-vous les uns les autres, comme je vous aimais, vous aussi. » Faites la même chose. Faites la même chose. Agissez de la même manière comme moi j'ai agi. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Et encore au verset 35, à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Comment, si vous avez l'amour les uns pour les autres? Alors, ça, c'est ce que les frères font. Ils demeurent ensemble, unis dans leurs sentiments, unis dans leurs pensées, unis dans l'amour fraternel les uns pour les autres. Mais le mot aussi, demeurer ensemble, véhicule aussi l'unité au niveau, pas seulement de la pensée, mais aussi l'unité au niveau de la présence. Et dans le psaume 133, les pèlerins, comme j'ai déjà mentionné, venus de toutes parts de la Palestine pour monter à la ville sainte de Jérusalem, anticipaient justement le moment. Quand au lieu d'être éparpillés un peu partout dans la Palestine, ils seraient tous ensemble. en train d'adorer Dieu, près les uns les autres et près aussi de leur Dieu. Et ça, c'est aussi ce que l'amour fraternel fera. Elle va produire une belle proximité qui va s'exprimer non seulement au niveau de la pensée, que nous allons avoir les mêmes sentiments et les mêmes pensées les uns envers les autres, mais nous avons aussi une unité qui va s'exprimer au niveau de la présence. Les frères et les sœurs qui s'aiment auront le désir d'être près les uns des autres. Tout à fait naturel. Je donnerai deux exemples de cela. Joseph, vous connaissez tous l'histoire avec ses frères, passé justement d'un temps extrêmement difficile. Et dans Genèse chapitre 45, il y a cette belle réconciliation avec Joseph et ses frères. Et la première chose qu'il va leur dire, « Approchez-vous de moi. » Voyez, l'unité est rétablie. Et qu'est-ce qui découle? Une proximité. Et plus tard, il va envoyer ses frères avec une commission. « Va chercher mon père et fais-le descendre. » Et c'est quoi son désir? « Tu habiteras dans le pays de Gozen, et tu seras près de moi. » Voyez le désir, qu'est-ce que l'unité produit? Une proximité qui nous donne des désirs d'être ensemble, proches l'un de l'autre. Et c'est le sentiment aussi qui habitait Jésus quand il a prié pour les siens dans Jean 17, 24. Il dit, « Père, je veux. » C'est mon désir que là où je suis, que ceux que tu m'as donnés soient, croient aussi avec moi. Deuxièmement, cette unité démontrée par la proximité reçoit une approbation. C'est approuvé le fait que les frères demeurent ensemble. C'est approuvé. Le texte dit, il est agréable. Il est doux pour les frères de demeurer ensemble. Deux questions. Qu'est-ce que cela veut dire? Le fait que les frères qui s'aiment se trouvent ensemble près les uns des autres, unis dans leurs sentiments et dans leurs pensées. Et cela est agréable à qui? Alors, le mot agréable dans l'original veut dire que c'est bon, c'est plaisant, c'est excellent. Cela a une grande valeur. C'est pour le meilleur, ça engendre un bien-être, prospérité, juste pour vous donner quelques significations de ce mot. Et le mot, nous le trouvons dans Genèse chapitre 1, où nous avons justement le récit de la création. Et Dieu va justement créer successivement toutes les choses. Et par exemple, pour la lumière, Dieu va dire que la lumière soit, la lumière fut. Et le texte nous dit que Dieu vit que la lumière était bonne. Et quand il y a aussi créé la terre, la mer, l'herbe, les arbres, le soleil, la lune, les oiseaux, les animaux, l'homme, Dieu vit que tout cela était très bon. Et une chose est bonne. Pourquoi est-ce que Dieu a dit que c'était bon? Parce que chaque chose était bonne pour les objectifs auxquels elle était destinée. Dieu a créé les arbres pour donner du fruit. Dieu a créé le soleil pour séparer le jour d'avec la nuit. Dieu a créé l'homme pour qu'il préside, pour qu'il domine justement sur la création. Et parce que chaque chose était à sa place et remplissait ses fonctions, Dieu a mis son sceau d'approbation. Il a dit, ça c'est bon. Et bien aimé, c'est exactement la même chose. Quand les frères et les sœurs, les croyants qui s'aiment, qui sont ensemble, unis dans leurs sentiments et dans leurs pensées, jouissant d'une proximité, Dieu met son sceau d'approbation. Il dit, ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Pourquoi? Parce que ça, c'est le but pour lequel l'objectif pour lequel je vous ai sauvé et je vous ai mis ensemble dans le corps de Christ. C'est agréable. C'est bon. C'est pourquoi l'Église existe. Mais non seulement cette proximité est approuvée par Dieu, mais aussi elle est avantageuse pour le croyant. Le texte va dire ceci, il est doux. Il est agréable à Dieu, c'est bon. Ça remplit l'objectif pour lequel Dieu nous a mis ensemble dans le même corps. Mais aussi c'est doux pour les frères de demeurer ensemble. Et dans l'original, ce mot doux a le sens de chéri, à délicieux, mélodieux, favorable, aimable. Hey, c'est poétique, hein? Alors, le texte indique que l'amour fraternel conduit à l'unité qui est exprimée, comme je dis, par une proximité. Les frères et les sœurs, les croyants qui sont ensemble en pensée et en présence. Et cette situation, cette proximité est un terrain fertile pour cultiver ce que nous devrions tous chérir et trouver délicieuse. Vous savez c'est quoi? C'est la communion fraternelle. Ça devrait être aimable. Cela nous est favorable. Et ça devrait aussi, quand cela existe, de vraie communion fraternelle, quand cela existe, ça nous permet d'avoir un témoignage mélodieux envers ceux qui nous entourent. Et les gens de l'extérieur nous regardent et nous voient. Et ils voient justement cette chose extraordinaire. Les gens de toute race, de toute couleur, de toute langue, qui sont ensemble, qui jouissent d'une proximité, qui sont unis dans leurs pensées et dans les sentiments les uns pour les autres. Et c'est doux, c'est agréable, c'est d'une grande valeur. On n'a pas le temps justement ce matin de développer cet aspect de la communion fraternelle. Il suffit de dire que l'unité va porter des avantages. Parce que pas d'amour fraternel, il n'y a pas d'unité. Et pas d'unité, il n'y a pas de proximité. Et pas de proximité, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de communion fraternelle. Mais quand nous sommes prêts les uns des autres, quand nous sommes remplis d'amour les uns pour les autres, alors, et cette liste n'est pas exhaustive, je vous donne justement quelques exemples, nous pouvons nous édifier les uns les autres. Ça, c'est un des avantages, justement, de cette proximité. Ça, c'est Romains 14, 19. Nous pouvons nous accueillir les uns les autres. Nous pouvons nous saluer les uns les autres par un saint baiser, c'est pas sur l'écran. Nous pouvons avoir soin les uns des autres. Nous pouvons, par amour, être serviteurs les uns des autres. Nous pouvons porter les fardeaux les uns des autres. Nous pouvons être bons les uns envers les autres. Nous pouvons nous pardonner les uns les autres. Alors ça, c'est l'avantage qui découle justement de cette unité qui est exprimée par une proximité. Les frères et les sœurs sont ensemble, sont proches de l'un l'autre et ils peuvent exercer un ministère extraordinaire les uns envers les autres. Je me demande ce matin s'il y a parmi nous ce qu'on appelle des « Lone Rangers ». Vous savez, c'est une expression anglaise qui vient justement d'une émission qu'il y avait à la télévision, puis aussi une série de bandes dessinées. Un homme qui était seul avec son Indien tantôt. Mais vous savez, ça pourrait être bien justement pour cet homme, mais dans le corps de Christ, il n'y a pas de place pour les Lone Rangers. Et peut-être quelques-uns, mais c'est parce que vous avez vécu, c'est sûr qu'on est imparfait. On peut, oui, malheureusement, se blesser les uns les autres. Mais ce n'est pas une excuse pour s'isoler. Parce que quand on s'isole, on ne peut pas être utile. Pour quelle raison je dis cela? Parce que chacun de vous, vous avez reçu, le moment que vous avez cru, vous avez reçu un don de la part du Seigneur Jésus-Christ. Et la parole de Dieu nous dit comme les bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres, le don qu'il a reçu. Et comment est-ce que tu vas faire cela si tu es un Lone Ranger? C'est quoi la solution? C'est l'amour fraternel. C'est la proximité. C'est l'unité. Et dans cette condition-là, on peut justement utiliser nos dons les uns envers les autres pour la gloire de Dieu et aussi pour l'avantage des frères et des sœurs. Deuxièmement, non seulement l'amour fraternel favorise l'unité qui est démontrée par la proximité, mais aussi cet amour fraternel favorise l'unité qui est démontrée par la paix, qui est démontrée par la paix. Le texte nous dit, il est agréable, il est doux pour les frères de demeurer ensemble. Et je vais vous donner deux preuves. Selon certains commentateurs, le psaume 133, l'entête, c'est de David. Et on nous dit que ce psaume probablement a été composé par David lors de la réunification de la nation d'Israël. Vous allez vous rappeler qu'après la mort de Saül, le premier roi, il y a eu une division en Israël. David était roi à Hébron. Et il y avait aussi le fils de Saül qui régnait sur d'autres tribus. Et il y a eu une guerre civile en Israël pendant de longues années. Chicane, guerre. Et finalement, la maison de David a l'emporté sur la maison de Saül. Et David a été couronné roi. Et l'Israël était maintenant, au lieu d'être deux tribus, ou bien des tribus qui se chicanaient, ils étaient une seule nation, un seul peuple. Et il est intéressant de noter que les anciens sont venus voir David pour le couronner roi. Ils ont dit ceci. Toutes les tribus d'Israël vinrent auprès de David, 2 Samuel 5, à Hébron, et lui dirent, « Voici, nous sommes tes os. Et nous sommes ta chair. » Vous voyez l'unité. Ça, c'est 12 tribus distinctes. Mais quand même, ils parlent le même langage. Nous sommes tes os et ta chair. Nous sommes un avec toi, David. Nous sommes tes frères. Et ensuite, ils ont dit, « L'Éternel t'a dit, tu paîtras mon peuple d'Israël et tu seras le chef d'Israël. » Et là, il envoie la soumission à la volonté de Dieu. L'autre preuve se trouve dans Genèse chapitre 13, pas besoin d'y tourner, mais l'autre contexte, c'est Abraham et Lot. Et les deux voyageaient ensemble, comme Abraham, c'est l'oncle, Lot, c'est le neveu, c'est la parenté. Les deux voyagent ensemble. Mais il y a une problématique, parce que les deux, ils ont des troupeaux. Et là, il y a la chicane qui va se poigner, comme on dit, la chicane se poigne dans la cabane. Et il y a querelle entre les bergers d'Abraham et les bergers de Lot. Et quelle belle attitude de la part d'Abraham face à la situation. Genèse 13, 8, il va dire ceci. « Qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, entre mes bergers et tes bergers. Pourquoi? Car nous sommes Vous voyez la paix. Cet homme, il a reconnu justement cette relation qui devrait exister entre frères. Il y avait la chicane, mais il a dit ça ne devrait pas exister parce qu'on est frères. Et les frères n'agissent pas comme ça, sans se poser de vivre ensemble dans la paix. Et ce matin, le message, c'est la même chose pour nous autres ce matin. Pas de dispute entre les membres d'Église qui car nous sommes frères et sœurs qui devraient demeurer ensemble dans la proximité et aussi dans la paix. J'aimerais vous dire deux choses à propos de la paix. Dans un premier temps, nous avons ce qu'on appelle la réalité de la paix. À cause de la mort de Christ, nous avons la paix avec Dieu, Romains 5, 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu nous a mis ensemble pour former un seul corps. Nous sommes tous membres les uns des autres, Romains 5, 12, 5. Et Dieu lui-même a établi la paix. Et dans le contexte du Nouveau Testament, c'était une chose incroyable. Vous avez le juif qui était justement à part, vous avez le païen et les deux s'haïssaient. Et Dieu a dit, je vous mets ensemble dans un même corps. Éphésiens chapitre 2, il a établi justement la paix entre les deux. Et ça, c'est une réalité. Mais nous avons aussi une responsabilité. Les croyants sont appelés, non pas à, pour créer la paix. La paix existe au niveau spirituel, elle est là. Mais nous avons aussi une responsabilité pour conserver justement cette paix. Et c'est ce que nous avons dans Éphésiens chapitre 4, où est-ce que l'apôtre Paul va exhorter les Éphésiens de marcher d'une manière digne de Dieu. Il leur dit ceci, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il parle de l'unité, et quand il y a l'unité, il y a aussi paix. Il a dit, vous avez une responsabilité de conserver justement cette paix, dans le pratico-pratique. Et ça, c'est la paix qui découle de l'unité. Alors, si on conserve l'unité, on conserve la paix. Et quand on conserve la paix, on ressemble à ce que nous sommes vraiment, des frères. Parce que les frères demeurent ensemble dans la paix. Alors, votre responsabilité, la mienne, c'est de vivre en fonction de ce que je suis, ce que vous êtes. Et chacun de nous, nous avons cette responsabilité alors de conserver la paix. Alors, une question très pratique, qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on fait justement pour conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix? Pouvez-vous répondre à cette question par une autre question? Qu'est-ce qui peut détruire l'unité dans l'Église? Parce que si vous détruisez l'unité, vous détruisez la paix. C'est aussi simple que cela. Alors, qu'est-ce qui peut détruire l'unité dans une Église? C'est quand les membres, au lieu de penser aux autres, commencent à penser à eux-mêmes, deviennent égoïstes, égocentriques, ayant leurs propres ambitions, et ainsi de suite. Et si vous mettez ça en place, vous avez tous les ingrédients pour faire sauter l'unité. Croyez-moi. Et au lieu d'avoir l'unité, vous allez le remplacer par les rivalités, des querelles, des animosités, des disputes, des jalousies, toutes sortes de mauvaises actions. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va signaler le 911? Hey, on a une problématique à l'église de Cap-de-Madeleine, on a besoin d'aide. Il faut éteindre le feu. Mais non, la clé, là, c'est de signaler plutôt l'amour fraternel. Et là, vous allez justement régler le problème. Et je vous donnerai rapidement deux clés pour conserver l'unité. Et si vous conservez l'unité, vous allez conserver la paix. Et quand vous conservez la paix, mais vous ressemblez à des frères et des sœurs. Alors, supportez-vous les uns les autres. Ça, c'est comment est-ce qu'on conserve la paix. Supportez-vous les uns les autres. Le mot a le sens de dire endurer, endurer l'autre. Mais aussi, il y a le sens de dire de se retenir. J'aime l'expression anglaise qui dit « hold self back ». Garde le moi en bride. Parce que c'est le moi qui est responsable, justement, pour les ambitions. C'est le moi qui est égocentrique, qui veut ce que je veux et qui me fait oublier de penser à l'autre. Alors, quand vous retenez le moi en bride, vous êtes en train, justement, de supporter à l'autre. Vous êtes en train de penser plutôt à l'autre au lieu de toi-même. Et Philippiens 2,4 nous dit ceci, « Au lieu de considérer nos propres intérêts, considérez aussi ceux des autres. » Alors, une seule réponse. L'amour pour l'autre, l'amour pour notre frère, notre sœur, l'amour fraternel, c'est ça qui nous permet de garder l'unité de la paix, de supporter l'autre et de ne pas laisser agir justement le moi qui est égocentrique et qui cherche ses propres intérêts. Et c'est intéressant que le texte nous dit, supportez-vous les uns les autres avec amour. Ça, c'est la clé. Il faut aller chercher l'amour fraternel et de mettre l'autre avant moi, justement pour éviter que je me concentre sur moi-même. Et c'est ça qui va produire justement des rivalités, des jalousies, et des querelles, toutes sortes de choses, et qui va faire sauter la paix. Deuxième clé. Le texte nous dit aussi dans Éphésiens 5, 21, « Soumettez-vous les uns aux autres. » Et si « supportez-vous » veut dire « hold self back », retenez le moi en bride, mais « soumettez-vous » veut dire « put self under », mettez le moi sous. Et vous savez aussi d'où ça vient, là, parce que le moi, il fait toujours ça. Toujours ça, toujours ça. Mais dans la vie chrétienne, et si on veut justement s'engager dans l'amour fraternel, il faut que le moi soit en dessous. Et ça, c'était l'exemple de Jésus-Christ, qui était rempli d'amour. Et il n'a pas considéré ses propres intérêts. Mais par amour, il a donné sa vie pour nous autres. Et ça, c'est comment est-ce qu'on conserve l'humilité, et conserve la paix. C'est quelqu'un qui, justement, met ces deux clés en action. Et ça, ça prend l'humilité, justement, pour agir de cette manière-là. Et finalement, je termine avec ceci. L'amour fraternel favorise l'unité qui est démontrée par une proximité, qui est démontrée par la paix, mais aussi qui est démontrée par la plénitude. Démontrée par la plénitude. Et là, le texte va nous donner deux illustrations qui, pour nous, en Occident, puissent paraître extrêmement bizarres. Hein? Il parle de l'huile précieuse. C'est quoi le rapport? Il va parler de la rosée, ce qui est sur une montagne en Israël. Mais si l'auteur prend justement ces exemples, c'est parce qu'il y a un rapport, il y a une parallèle, il y a une relation entre cette unité et les deux images qu'il va utiliser. Et je vais vous donner rapidement. Dans un premier temps, l'huile précieuse, l'huile, est un symbole du Saint-Esprit. On parle de Jésus-Christ dans les psaumes qui a été oint d'une huile de joie. Et dans les actes, on dit que Jésus a été oint de Saint-Esprit de force. Alors, le symbole de l'huile, on parle de l'Esprit. Ensuite, quand vous avez l'huile, on dit que l'huile a été répandue. C'est une huile abondante. Ça descend sur la barbe d'Aaron et ça allait même jusqu'au bord de ses vêtements. Et ça a dû prendre beaucoup d'huile. Ce n'est pas une petite goutte qu'on a mis sur sa tête. On a donné une douche. Puis ça, c'est beaucoup d'huile. Alors, l'observation, c'est que quand vous avez des frères et des sœurs qui demeurent ensemble, dans l'unité, dans l'amour fraternel les uns pour les autres, dans une proximité, qui s'engagent dans une communion fraternelle, qui prend soin les uns les autres, le Saint-Esprit n'est pas attristé. Et quand le Saint-Esprit n'est pas attristé dans une communauté chrétienne, il peut agir dans toute sa plénitude. Et quand le Saint-Esprit agit dans toute sa plénitude, vous avez des croyants qui sont remplis d'esprit et qui s'engagent dans l'amour fraternel les uns pour les autres. Ça, c'est l'image. Et Paul va dire ceci dans 2 Thessaloniciens 1:3. Nous devons à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu parce que l'amour de chacun de vous à l'égard des autres augmente de plus en plus. Il y avait une abondance, justement, d'amour fraternel dans cette église. Et comme l'huile abondante qui était répandue sur la tête d'Aaron, il y avait l'action du Saint-Esprit qui était là, qui animait ces chrétiens avec un amour fraternel abondant. Je vous donne rapidement une citation de Spurgeon. C.H. Spurgeon a dit ceci. L'huile était précieuse et sacrée, selon Exode 30, 31. Cela nous démontre que l'amour fraternel est précieux et sacré devant Dieu. Elle était répandue, elle se diffusait, l'amour fraternel devrait s'étendre vers tous. Cette huile était réservée pour une utilisation spéciale. On ne mettait pas cela sur n'importe qui. C'était réservé pour le souverain sacrificateur, pour le préparer pour une fonction spéciale. Et ceux qui sont animés de l'amour fraternel sont mieux équipés pour être utilisés par Dieu dans son service. Et il y a beaucoup de vérité là-dedans. Montrez-moi quelqu'un qui est privé de l'amour fraternel, qui a de la rancune, de l'amertume. Et je ne suis pas convaincu que cette personne-là puisse être utilisée puissamment par Dieu. Deux applications, 1 Corinthiens 13, on peut avoir tous les dons, toutes les capacités. On peut parler la langue des hommes et des anges, on peut avoir les dons de la prophétie, tout cela. Si nous n'avons pas l'amour, nous sommes rien. Et deuxièmement, l'huile était répandue sur la tête. Il ne faut pas spiritualiser le texte, mais je pense qu'il y a une application là. La tête contrôle quoi? Le reste du corps. Et dans une église, il y a une tête. Il y a Christ qui est le chef, mais aussi il y a des leaders qui sont dans l'église. Et les leaders sont appelés à être quoi? Les modèles. Alors si on veut que la communauté s'exerce dans la communauté, dans la communion fraternelle et dans l'amour fraternel, mais aussi les leaders devraient être des modèles d'amour fraternel envers le peuple. Deuxième illustration, la rosée. C'est la rosée de l'Hermon. Et on nous dit que c'est une rosée c'est une des rosées la plus abondante qui est dans le monde. Quelqu'un a dit qu'il a pris un voyage, puis il a été au pied de la montagne, puis quand il s'est enlevé, là, il y avait de l'eau partout, la tente était trempée, le sac de couchage il était humide, même leur fusil de chasse, il y avait de l'eau partout. C'est une rosée abondante. Et même on nous dit que certains endroits arides sont devenus justement fertiles à cause de cette rosée. On pourrait faire beaucoup d'applications, mais j'aimerais juste faire une application ce matin. C'est la formation de la rosée. On nous dit que la rosée se forme à une température spéciale. On appelle ça le point de rosée. C'est la température à laquelle la vapeur d'eau dans l'air commence à se condenser. Et il faut que ce soit une température précise. S'il fait trop chaud, il n'y a pas de condensation. Et s'il fait trop froid, vous n'aurez pas de la rosée, vous allez avoir du givre. Et l'application pour moi est claire. Si vous avez dans une église des membres qui vivent dans l'indifférence, les uns envers les autres, où l'amour fraternel s'est refroidi, ou si encore il y a de la chicane et des disputes, ça chauffe, les esprits se sont réchauffés, mais cette communauté sera privée de la rosée des bénédictions de Dieu et risque de devenir aride et stérile. Et même si la rosée existe, et on remercie Dieu pour cela, mais il faut la conserver, parce que quand la chaleur du soleil apparaît, qu'est-ce qui arrive? La rosée disparaît. Et ce n'est pas parce qu'on pourrait jouir d'une bonne communion fraternelle et recevoir les bénédictions du Seigneur qu'on devrait prendre sa peau à qui? Parce que s'il y a des troubles dans une groupe, dans une assemblée, c'est comme la chaleur. Et la rosée va justement se dissiper. Deux illustrations. Actes chapitre 6, pas besoin d'y tourner, mais là, il y a une problématique. On nous dit qu'il y avait des Hébreux et des Hellénistes. Et qu'est-ce qui se passe? La chicane se poigne. Il y a une distribution qui se fait chaque jour. Et les veuves Hellénistes sont négligées. Et là, il y a ceux qui parlent grec, c'est les Juifs qui parlaient grec, les Hellénistes. Et des Juifs qui parlaient araméen. Et parce que les veuves étaient négligées, il y a des murmures. Je pense que la parole de Dieu est polie, là. Hein? Il y a une friction. Et là, ça menace à briser l'amour fraternel et l'unité et la proximité. Et les frères les apôtres vont convoquer la multitude. Ils disent, écoute, il faut régler cela. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils vont choisir des hommes, marqués encore, plein d'esprit saint et de sagesse. Et là, ils vont donner justement la tâche de régler cela. Le problème est réglé. Et quand c'est réglé, Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer la rosée de sa bénédiction. Si vous lisez le texte dans Actes chapitre 6 au verset 7, on lit ceci. Tout de suite après cet événement, la parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Vous voyez, ils ont conservé l'unité par la puissance de l'Esprit. Et Dieu renvoie une belle bénédiction. Des âmes sauvées, même les sacrificateurs qui étaient immergés dans le judaïsme ont vu la lumière de l'Évangile, sont venus justement à la croix. Et la deuxième illustration, c'est Saul de Tarse. Actes chapitre 9, un homme qui vient d'être sauvé, il a rencontré le Seigneur sur le chemin de Damas, et littéralement, il explose. Il explose. Il s'en va à Damas. Le texte nous dit qu'il confond les Juifs, et le monde, il cherche à le faire mourir. Il échappe de leurs mains, il s'en va à Jérusalem, et encore une fois, on ne peut pas lui fermer la bouche. Il est tellement enflammé pour le Christ, il prêche encore, même résultat, le monde cherche à le faire mourir. Et là, qu'est-ce que nous disons, les frères, probablement les apôtres, l'ayant su, l'emmenèrent à Césarée et le firent partir pour Tarse. Il dit, wow, une minute ici. Qu'est-ce qui se passe ici? Mais vous savez, cet homme ici, c'est un apôtre, il a vu le Seigneur. C'est un apôtre, comme les autres. Et le Seigneur aussi lui a donné une mission spéciale. Il a dit à Ananias, j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Alors on devrait dire, mais écoute, c'est lui qui devrait être en charge de son ministère, c'est un apôtre. Il a l'autorité. Et pourtant, qu'est-ce qu'il fait? Il se soumet à l'autorité des autres frères qui ont dit, il faut que tu en ailles. Qu'est-ce qui démontre l'humilité? Qu'est-ce qui conserve l'unité? Et qu'est-ce qui se passe encore? Regardez la rosée qui descend du ciel. L'Église était en paix dans toute la Judée. La Galilée et la Samarie s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elles s'accroissaient par l'assistance du Saint-Esprit. Un homme qui se plie à la volonté des autres, qui conserve justement l'unité, qui démontre l'humilité, malgré tout son pédigré, malgré le ministère qu'il y avait. Et le Seigneur ajoute la rosée de la bénédiction. Le psaume termine en disant ceci, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité, une vie abondante. Et ça, chers amis, c'est un beau portrait de l'amour fraternel. Trois choses qui sont là-dedans, qui est aussi une application pour n'importe qui. Dieu nous appelle à une proximité avec lui. Dieu nous appelle aussi à la paix avec lui. Et Dieu nous appelle aussi à avoir une vie de plénitude. Jésus-Christ a dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles aient en abondance. Et toutes ces choses découlent de quoi? Découle de la vie éternelle. Quand Dieu nous donne la vie éternelle, qu'est-ce qu'il nous donne? Il nous donne la paix, il nous donne la plénitude et il nous donne aussi une belle proximité avec sa personne. Et si vous êtes ici ce matin, vous ne connaissez pas le Christ, mais la question que je vous pose en terminant, avez-vous justement cette proximité avec Dieu? Avez-vous cette paix avec Dieu? Avez-vous cette plénitude de la vie en Jésus-Christ? Avez-vous la vie éternelle? On va prier. Seigneur, nous voulons te remercier pour ta parole. Elle nous instruit, elle nous corrige, elle nous éclaire, elle nous fortifie. Merci Seigneur pour cet bel exemple de cette unité. Mes frères, sœurs qui demeurent ensemble. Et là, tu regardes du ciel et tu dis, ça c'est beau, ça c'est bon, ça c'est agréable. Et nous Seigneur, dans cela, nous pouvons aussi nous jouir de cette belle relation que nous avons avec nos frères et nos sœurs. Seigneur, qu'il en soit ainsi parmi nous, que tu nous remplisses de ton amour afin que nous puissions nous aimer les uns les autres, nous fortifier les uns les autres, nous encourager les uns les autres, nous porter les fardeaux les uns les autres. Seigneur, de jouir d'une bonne communion fraternelle, que toi tu désires exister entre les frères et les sœurs. Merci pour chaque croyant ici, merci pour les dons que tu les as donnés, que chacun puisse mettre oui, ce don au service des autres, sachant que tu les béniras. Seigneur, s'il y a quelques-uns parmi nous qui ne te connaissent pas, sois miséricordieux. Ouvre leurs yeux, donne-leur à te connaître, donne-leur le don de la vie éternelle. Nous demandons au nom de Jésus. Amen.